Que le nom du Seigneur soit béni. Oui, le Seigneur nous montre une direction. Et je pense que c'est à nous, parce qu'il nous a laissé libres, de pouvoir aller dans cette direction ou de prendre à contresens. Nous allons faire une première lecture, si vous le voulez bien, dans l'évangile de Luc, au chapitre 9 et le verset 51. Nous lisons « Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples, Jacques et Jean, voyant cela, dirent « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ?» Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Et ils allèrent dans un autre bourg. Nous lisons, toujours dans le même évangile, au chapitre 17, et le verset 11. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, maître, aie pitié de nous ». Dès qu'il les eut vus, il leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur ». Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit « Les 10 n'ont-ils pas été guéris ? Et les 9 autres, où sont-ils ? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu ?» Puis il lui dit, « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Amen. » Il y a une direction, et Antoine nous l'a rappelé en citant ce texte dans Jean 14, 6, « Jésus est le chemin, la vérité, la vie. » Et s'il est certain, manifeste, qu'il est bon de connaître le chemin, une direction pour savoir bien se diriger, il est aussi manifeste, pour nous ce soir, de dire que la seule direction valable, c'est en Jésus-Christ. Et nous allons le voir au travers de ce texte, comment Jésus fonctionne, ce qu'il aimerait que nous puissions entrevoir de lui, et même plus loin, apprendre de lui dans l'intimité qu'il voudrait que l'on développe ensemble, mais particulièrement nous, moi, personnellement, Jonathan, avec Jésus-Christ, et chacun d'entre nous, il y a toujours ce désir dans le cœur de Jésus-Christ d'une rencontre. Il y a toujours ce désir d'une interpellation, dans le sens qu'il aime lorsqu'on vient vers lui. Il aime lorsqu'on le supplie, on lui parle, parce qu'il se plaît à bénir les hommes, mais il se plaît davantage à sauver. Jésus avait toujours dans son cœur le pourquoi il était venu. La Bible, pour ceux d'entre nous qui ont l'habitude, qui connaissent un petit peu, savent que c'est de son plein gré que Jésus-Christ est venu dans ce monde. Il n'a pas été forcé et on aime le rappeler parce que c'est là l'excellence de son sacrifice, de venir de son plein gré. Il était Dieu, c'était le roi des rois. Et il a décidé volontairement de s'humilier, d'apprendre par la souffrance, l'obéissance, pour nous montrer un chemin, pour que nous, en tant que chrétiens, nous puissions savoir sur quel chemin marcher, dans quelle direction aller, mais également pour montrer à l'ensemble de l'humanité le chemin, la direction pour être sauvé. Et on voit dans le premier texte que nous avons lu, déjà, la manifestation de Jésus-Christ pour l'heure de la croix. Le temps était fixé. Il savait que ça approchait. Il savait que maintenant, il fallait qu'il aille dans cette direction, Jérusalem. Il fallait, parce que c'était là son obéissance. C'était là le but de sa venue, mourir sur la croix pour nous offrir le pardon de nos péchés, pour nous offrir la vie éternelle. Mais encore faut-il l'accepter, le comprendre, vouloir que Jésus-Christ puisse demeurer en nous, parce que l'homme est libre. Et nous sommes sans cesse confrontés à des choix tous les jours de notre vie, de notre existence. Nous faisons des choix qui ont des fois pas trop d'importance, qui sont peut-être là, logiques dans notre existence, mais quelquefois nous prenons des décisions qui peuvent avoir des répercussions graves, importantes pour le reste de notre vie, pour les jours, les mois, les semaines et les années à venir. Et Dieu a voulu, c'est dans sa volonté que l'homme ait ce choix de suivre Jésus-Christ ou de ne pas le suivre, et de le recevoir par rapport au premier texte que nous avons lu, de recevoir Jésus-Christ ou de ne pas le recevoir. Dans le premier texte, ce n'est pas là le but du message ce soir, mais quand même, j'aimerais juste m'y attarder une seconde, quelques secondes, parce que Jésus allait à Jérusalem. Jésus allait pour donner sa vie. Et le monde n'a pas trop changé, n'a pas beaucoup évolué. Même si on est capable de faire beaucoup de choses aujourd'hui, au niveau spirituel, ça n'a pas beaucoup évolué. Et même, vous serez peut-être, ou peut-être pas d'ailleurs, mais je peux dire, et nous pouvons dire, pour nous qui avons été éclairés, que c'est sur le déclin. La nuit arrive, la nuit arrive. Mais toujours est-il que lorsque les personnes ont compris, ont vu que Jésus allait à Jérusalem, ils n'ont pas voulu le recevoir. Il n'est pas question de recevoir Jésus-Christ, il n'est pas question d'entendre parler de la croix, ça ne nous intéresse pas. On veut bien autre chose et on va le voir, mais la croix, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Mais nous, ce soir, nous voulons vous parler de la croix. On a chanté « De la croix, la grâce coule ». Et je pense que, bien évidemment, on ne peut pas se passer de parler de la croix, de parler de la grâce de Dieu qui est là, encore disponible pour les êtres humains, parce que la porte est encore ouverte. Et Dieu veut sauver ce soir, Dieu veut guérir. Dieu veut peut-être penser des blessures qui sont là en nous, dans notre existence. Il veut œuvrer. Mais toujours est-il, c'est qu'il faut avoir le cœur ouvert et de ne pas dire « Ah non, Seigneur, je ne veux pas te recevoir parce que voilà, ce que tu me présentes, ton programme, ça ne m'intéresse pas. » Et c'est dans le deuxième texte que nous allons peut-être nous appesantir un petit peu. Il est question de lépreux. Il est question de personnes qui étaient là, contaminées. C'était quelque chose de tragique. Aujourd'hui, dans certains pays, la lèpre existe toujours. Mais pour l'époque, et bien sûr aujourd'hui, il existe des moyens modernes, des moyens, on peut arriver dans quelques pays, peut-être à contenir, à faire ceci ou cela, mais pour l'époque, c'était un drame. D'ailleurs, la lèpre a toujours été utilisée dans la parole de Dieu, bien sûr, au-delà de la maladie physique. C'est l'image parfaite pour décrire le péché dans notre existence. Et il y a un texte, il y en a quelques-uns, mais il y a un texte qui vient cadrer vraiment, un petit peu, en un verset, deux versets, la vie de ce qu'étaient les lépreux. C'est dans le livre du Lévitique, et je vais le lire pour vous, Lévitique chapitre 13, versets 45 et 46, le lépreux atteint de la plaie portera ses vêtements déchirés et aura la tête nue. Il se couvrira la barbe et criera « Impur, impur ». Aussi longtemps qu'il aura la plaie, il sera impur, il est impur, il habitera seul. Sa demeure sera hors du camp. Alors bien sûr, ce n'est pas quelque chose de très joyeux. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'être atteint de lèpre, à l'époque, d'autant plus, c'était quelque chose de tragique. Il y avait une rupture dans la vie des êtres humains qui étaient lépreux. Il y avait là une honte, il y avait là quelque chose à porter, il y avait l'exclusion, il y avait l'abandon. Il y avait le rejet. Quotidiennement, il devait crier tous les jours, impur, impur. leur vie se résumait à ce mot impur. Ces hommes qui étaient là n'avaient pas de perspective d'avenir. Il n'y avait pas d'évolution. Ils ne pouvaient pas espérer aller mieux. Leur vie, c'était impure, impure. Et bien sûr, la Bible nous parle de cette image parce que nous, sans Dieu, sans Christ, nous sommes impurs. Parce que la Bible nous révèle que l'homme est pécheur et que devant Dieu, nous sommes impurs et que nous avons besoin d'être purifiés. Nous avons besoin, comme nous l'avons lu, peut-être à un certain niveau, de rencontrer le sacrificateur. Et pour nous, notre sacrificateur, c'est Jésus-Christ. Parce que c'est son sang qui a coulé, qui vient nous purifier, et c'est lui qui atteste que nous sommes purs. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas par notre propre conviction que nous pouvons dire « mais moi je vais bien, moi avec Dieu, ne vous inquiétez pas ». Je pourrais m'expliquer, je pourrais lui dire que je ne suis pas impur, mais que quelque part, moi je suis bien parce que ceci, parce que cela. Ce n'est pas nos convictions, ce n'est pas nos actes qui font la différence, qui vont nous rendre approuvés de Dieu. Ce n'est pas ce que nous pouvons être qui va nous faire voir d'une manière différente de la part de Dieu. C'est le sang de Jésus-Christ, c'est son sacrifice. Toujours est-il que dans le deuxième texte que nous avons lu, dans le livre, l'évangile de Luc au chapitre 17, il y a 10 lépreux. Et on va parler un petit peu des 9 lépreux. On ne sait pas vraiment qui ils étaient, ce qu'ils faisaient. On ne sait pas quelle a été leur vie. Et moi je pense que si on ne sait pas, c'est parce que leur vie n'était rien d'autre que impure, impure. Toujours est-il, c'est que nous avons lu, c'est que Jésus se rendait à Jérusalem. Jésus avait toujours cette volonté d'obéir et il a continué. À partir du moment où il sentait, il a compris, il savait parce qu'il y avait ce lien direct entre lui et le Père, il savait que le chemin, son heure, c'était là et il devait aller à Jérusalem. Et Jésus se rendant à Jérusalem, va passer dans ce village. Et vous savez, on peut dire que c'est le hasard, on peut dire que c'est bien tombé, on peut dire ceci ou cela, mais jusqu'au bout, Jésus a fait du bien. Jusque sur la croix, lorsqu'il a parlé à ce brigand, lui disant « Aujourd'hui, je te le dis, tu seras avec moi au paradis. » Jusqu'à la croix, Jésus a voulu bénir l'humanité. Et le comble, c'est la croix. Et le comble de son amour. Bien sûr, il y a ce texte où nous pouvons lire Jésus mit le comble à son amour lorsqu'il va laver les pieds de ses disciples. Et on pourrait s'y attarder. Mais l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, c'est pour l'œuvre de la croix. C'est ce qu'il veut faire pour chacune de nos vies. Nous accorder le pardon, mais nous restaurer dans ce que nous sommes. Et ces lépreux savaient quelque part, ce que Jésus-Christ pouvait faire. Parce que la bénédiction, on la veut tous. Être béni, être touché, aller mieux, être guéri, avoir ceci ou cela dans notre vie, ce que notre cœur désire. On le veut tous, on le désire tous. Mais Jésus veut plus pour notre vie. Parce que ce qui sauve un homme, ce n'est pas tant le fait, et c'est absolument même pas le fait d'avoir été guéri qui sauve un homme. C'est le fait de reconnaître Jésus-Christ, de le reconnaître en tant que fils de Dieu. C'est ça qui peut bouleverser une vie. Ce qu'il y a de frappant dans ce texte, c'est que les 10 lépreux, parce qu'ils l'ont entendu, vont se dire « mais là, c'est le moment ». Et bien évidemment, si Jésus, dans le premier texte que nous avons lu, savait que le temps était arrivé où il devait se rendre à Jérusalem, il y a des temps dans notre vie qui sont voulus de Dieu, des rendez-vous. Dieu nous donne rendez-vous, que ce soit ce soir, que ce soit à notre maison, dans notre appartement. Il y a des temps que Dieu veut que l'on puisse avoir avec lui parce que C'est ça l'évangile, c'est ça la bonne nouvelle, c'est Dieu qui s'est fait homme pour que nous puissions être rétablis dans notre relation avec Dieu. Et Jésus-Christ voulait passer par là parce qu'il voulait sauver ce lépreux, peut-être bien les guérir, mais sauver le lépreux. Et les 10 vont dire, mais aie pitié de nous, fais quelque chose pour notre vie, fais quelque chose. Ce qui est triste au début de ce texte, c'est que la Bible nous dit, il se tenait à distance. On ne l'a pas reçu, on se tient à distance et on veut l'interpeller, on veut qu'il puisse nous aider, mais on se tient à distance, on est méfiant, on ne sait pas trop. Bien évidemment, vous allez me dire, mais ils étaient lépreux, et comme vous le savez, les lépreux n'avaient pas le droit de contact, ne pouvaient pas approcher les personnes. Mais il y a un autre texte dans la parole de Dieu, et je le relevais, c'est dans Marc chapitre 1er verset 40, où par exemple, il nous est dit qu'un lépreux vient à lui, vient à Jésus-Christ, et va se jeter à genoux. Il lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Et Jésus va le toucher. Il y avait cette proximité, mais les 10 n'ont pas voulu de suite cette proximité. Et vous voyez, on peut interpeller, on peut se dire, mais oui, c'est vrai, Jésus peut peut-être faire quelque chose pour moi, peut-être moi je crie impur, peut-être il y a dans ma vie quelque chose d'impur, peut-être il y a toujours le péché, je n'ai pas réussi à régler cette question, il y a mon attachement au monde, et on le verra, mais si Jésus est toujours à une certaine distance, arrivé à un moment donné ou à un autre, ça va bloquer. On ne va pas pouvoir bénéficier de ce qu'il veut nous donner pleinement. Si on s'approche de Jésus uniquement parce qu'on a entendu qu'il peut bénir, qu'il peut guérir, qu'il peut faire ceci ou cela dans notre vie, mais qu'après on ne décide pas de s'approcher pour qu'il nous touche, pour qu'il puisse changer notre cœur, pour qu'il puisse nous dire « mais voilà, je te donne ma paix ». Il y arrivera toujours un moment où notre vie va être stérile. Et ce n'est pas la volonté de Dieu que nous puissions nous dire « mais voilà, toute ma vie, je veux rester à distance de Jésus-Christ ». Jésus n'est pas venu dans ce monde pour que la conclusion de notre existence, ça soit « ben voilà, je me suis tenu à distance de Jésus ». Ce n'est pas pour ça qu'il est venu. Il est venu pour guérir, il est venu pour sauver. Il n'est pas venu pour perdre les hommes. Il est venu pour les sauver et les pardonner pour ceux et celles qui désirent mettre leur foi, leur confiance en lui et qui décident d'obéir à sa parole. Jésus, maître, aie pitié de nous. Et Jésus ne va pas discuter. Il a toujours cette compassion. Il va leur dire, mais allez, allez. Et tous vont aller. Et c'est là où il y a une différence quand même. Parce que les 10 ont été à une certaine distance. Les 10 vont entendre la même parole. Mais 9 ne vont avoir qu'en tête que cette seule et unique idée, vision de leur vie, c'est d'être restauré. Parce que la parole nous enseigne que c'est le sacrificateur qui pouvait faire une lettre comme quoi ils étaient purs et qu'ils pouvaient regagner le reste de la tribu, le reste du camp, la famille. C'était le sacrificateur qui pouvait les rétablir. Et vous voyez, le problème, c'est ça. C'est que quelquefois, on est tellement centré sur nos problèmes, tellement centré sur « mais il y a ça qui ne va pas », c'est qu'on oublie l'essentiel. On est tellement centré sur notre mal-être qu'on passe à côté du fondement, de ce que Jésus-Christ est capable de nous donner pleinement. Et ces neuf lépreux qui ont été guéris, ils ont été guéris, puisque la Bible nous le dit. Je pense qu'ils sont allés voir le sacrificateur. Le sacrificateur a dû leur dire, mais voilà, vous pouvez être restaurés. Peut-être qu'ils ont dit, mais voilà, on va prendre une victoire, on va prendre la revanche sur notre vie, on va monter une société, on va monter une start-up, on va faire ceci, cela, on va gagner des sous, on va se marier, je vais pouvoir faire tout ce que je n'ai pas pu faire avant. Mais ce n'est pas ça que Jésus attend. Ce n'est pas ça. Ce que Jésus attend, c'est ce que va faire le dixième. Ce que Jésus attend de notre vie, c'est pas qu'on soit attaché au monde, c'est pas qu'on le recherche toujours à une certaine distance pour qu'il vienne combler notre manque affectif, pour qu'il vienne combler nos carences, pour qu'il vienne combler ceci ou cela, sans qu'on puisse rentrer dans le salut, sans qu'on puisse rentrer dans une vie de service, sans qu'on puisse rentrer dans une vie épanouie en lui. L'évangile de Luc, ne le cherchez pas, je le lis pour vous. Toujours Jésus va dire, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Peut-être qu'aux yeux de la société, ces 9 lépreux sont devenus des héros. Peut-être que lorsqu'ils ont pris le chemin, les gens ont dit, ah regardez, c'est les lépreux. Lui, il n'était pas lépreux, regardez, il a été guéri. Peut-être qu'ils ont eu leurs photos dans le journal, peut-être qu'il y a eu des articles, des vidéos, peut-être qu'il y a eu 10 minutes au journal du soir, mais devant Dieu, c'est ça la question. Devant Dieu, est-ce qu'ils étaient purifiés devant Dieu? Devant Dieu, parce que le monde, c'est bien, mais ça passe. Être restauré, rétabli aux yeux du monde, pouvoir prendre sa revanche parce qu'on a vécu une période difficile et maintenant on va mieux, alors on se dit, ben voilà, vous allez voir, alors que vous m'avez mal parlé, avant, ben maintenant je vais mieux, je vais pouvoir me venger, c'est pas ça. Proverbe 30, verset 12 nous dit, « Il est une race qui se croit pure et qui n'est pas lavée de sa souillure. » On pourrait dire, il y a des lépreux, des personnes guéries qui se croient pures, qui pensent qu'ils sont purs, mais qui ne sont pas lavés de leur souillure. Parce que ces 9 lépreux, vous voyez, la guérison de leur corps, c'est pas ça qui les a délivrés du péché. C'est pas ça qui va les faire voir purs aux yeux de Dieu. Ce n'est pas tes expériences, vos expériences qui va faire que vous êtes sauvés. Ce n'est pas le fait de dire, mais voilà, j'ai prié, j'ai été exaucé. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour les exaucements. Ce n'est pas le fait de dire, mais voilà, j'étais dans la dépression, je vais mieux, voilà, Dieu me voit pur. Ce n'est pas ça. C'est le sang de Jésus qui purifie de tout péché. C'est l'œuvre de la croix qui nous fait voir aux yeux de Dieu comme purs. C'est lorsque nous sommes lavés par le sang de Jésus-Christ que notre nom est inscrit dans le livre de vie, que nous sommes sur le carton d'invitation pour le jour où Jésus-Christ va revenir. Notre laissez-passer, notre badge VIP, c'est le sang de Jésus-Christ qui nous le donne. Ce n'est pas nos expériences. Ce n'est pas ce qu'on a pu expérimenter, c'est uniquement le sacrifice de Jésus-Christ. Il est une race qui se croit pure, et laissez-moi vous dire que peut-être ces lépreux, ces 9 lépreux sont partis, peut-être en chantant, ça y est, nous sommes purs, et qui n'est pas lavé, ils ne sont pas lavés de leur souillure. Ésaïe 64 nous dit, tu vas au-devant de celui qui pratique avec joie la justice, de ceux qui marchent dans tes voies et se souviennent de toi. Mais tu as été irrité parce que nous avons péché et nous en souffrons longtemps. Le péché, on en souffre longtemps, jusqu'à ce que nous soyons sauvés. C'est là la réalité de notre vie. On peut essayer de vivre des choses, on peut essayer d'expérimenter beaucoup de choses, et dans sa grâce, Dieu peut bénir. Mais on a besoin de comprendre qu'on a besoin d'être délivré, sauvé de notre péché, lavé par le sang de Jésus-Christ, parce que le péché, on en souffre longtemps. Il ne faut pas croire que le temps va effacer. Il ne faut pas croire qu'avec le temps, on va réussir à marcher en pensant que ça va dans notre vie. Il ne faut pas croire que le temps, mois après mois, semaine après semaine, parce qu'on a fait ceci ou cela, ça va aller mieux. Ce n'est pas vrai. Le péché, on en souffre longtemps. C'est inscrit en nous. Et pour que ça soit effacé, ce n'est pas nous qui pouvons faire ça, ce n'est pas nos expériences, nos actes, mais c'est notre confiance dans le sang de Jésus-Christ. Ésaïe 64, le verset 5, nous dit « Nous sommes tous comme des impurs, et notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris, comme une feuille, et nos crimes nous emportent comme le vent. » C'est ça la réalité. C'est ça la réalité de ces neuf. Vous voyez, lorsqu'on lit ce texte, on se dit « Oui, il y en a un qui est retourné. » Et le danger aujourd'hui, dans le monde moderne, en 2015, c'est de faire croire aux personnes que parce qu'elles ont vécu une guérison, elles sont sauvées. Excusez-moi d'insister. Le danger, c'est de faire croire qu'on peut, parce qu'on a fait une prière, parce qu'on a eu une expérience, que finalement, ça y est. C'est pas vrai. C'est faux. Et ce qui doit nous arriver, c'est ce que va faire ce dixième ancien lépreux, on ne pourrait l'appeler. Parce que c'est ça qui change tout. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas. Revint sur ses pas. Il ne va pas se dire, mais voilà, là si je ne vais pas voir le sacrificateur, ma vie elle est finie. Si le sacrificateur n'atteste pas que je suis pur, je ne vais pas pouvoir retourner avec les autres, ceci, cela. On pourrait dire, il ne va pas s'inquiéter de gagner le monde. Il ne va pas s'inquiéter d'être restauré d'un point de vue du monde. Ce qui va l'inquiéter, ce qui va être au fond de son cœur, c'est de se dire, mais attends, ma place, elle n'est pas dans cette direction-là. Elle n'est pas dans le monde. Ma place, elle est au pied de Jésus-Christ. Et c'est là notre place. C'est là ta place ce soir. Ce que Dieu attend, c'est ça. Il n'attend pas que tu fasses des choses extraordinaires. Il n'attend pas que tu jeûnes pendant 6 mois et demi pour dire, ben voilà, je suis un bon chrétien parce que j'ai jeûné pendant 6 mois et demi, parce que j'ai mangé que du pain pendant une semaine, parce que ceci, parce que cela. J'ai essayé d'apprendre la Bible par cœur. Je me force à lire la Bible pendant 4 heures et demie d'affilée et peut-être que Dieu va m'aimer plus, peut-être que si, c'est pas ça. C'est pas ça que Dieu attend. Ce que Dieu attend, c'est ça, c'est reviens sur tes pas. Peut-être que tu as vu Jésus au loin, à distance. Tu as fait une expérience, mais tu as quand même pris le chemin du monde. Tu es quand même allé dans cette direction, reviens sur tes pas. Jésus t'attend. Jésus t'attend. La traduction de « revins sur ses pas », c'est retourner, vous allez dire, là il ne faut pas un diplôme en théologie pour dire ça, faire un revirement. Mais l'origine du mot, c'est se détourner, ou on pourrait dire se convertir, changer de centre d'intérêt, faire un... Et le mot d'ailleurs vient d'une rotation. On pourrait dire c'est faire une rotation à 180 degrés. Il revint sur ses pas. Il a tourné à 180 degrés. Et l'homme est sauvé. Lorsqu'il y a la repentance, lorsqu'on comprend qu'on est pécheur, lorsqu'on comprend que finalement, ce n'est pas le monde qui a nous apporté, c'est Dieu. Parce que c'est Jésus-Christ, c'est Dieu qui s'est fait homme pour nous sauver. C'est dans son amour, c'est cet amour qui nous transporte, qui nous transforme. Ce n'est pas un amour qui vient pour nous condamner, pour nous punir en disant « Mais voilà, je t'avais dit, tu ne m'as pas écouté, tant pis pour toi. » C'est un amour qui vient pour nous restaurer, pour nous bénir, pour nous guérir. Mais il faut qu'on puisse se repentir, il faut qu'on puisse demander pardon à Dieu parce que peut-être que maintes et maintes fois, on l'a laissé à distance dans notre vie, maintes et maintes fois, on n'a pas voulu le recevoir, maintes et maintes fois, on n'a pas voulu entendre de Jérusalem, de la croix, on n'a pas voulu ceci ou cela, et aujourd'hui, parce que c'est ça ce qui compte, c'est aujourd'hui. Est-ce qu'il n'est pas le temps ? C'est pas le temps de dire, mais je vais peut-être revenir sur mes pas, je vais peut-être revenir, je vais peut-être rentrer à la maison. On est chez soi lorsqu'on est avec Jésus. On peut parcourir ce monde, laissez-moi vous dire que vous ne vous sentirez jamais chez vous dans ce monde. L'homme est fait, la femme est faite pour être avec Dieu, pour être avec son Créateur. Et le seul chemin, c'est Jésus-Christ, comme nous l'a dit Antoine. Le seul chemin par lequel nous devons passer, c'est Jésus-Christ. Il tomba sur sa face au pied de Jésus. Il tomba sur sa face. Ça, c'est notre place. De dire, Seigneur, maintenant, prends ma vie. Dirige-moi. Montre-moi la direction. Seigneur, je veux passer par toi maintenant. Je veux passer par toi pour que tu me dises où aller, que faire, quoi faire. Je veux passer par ta parole pour me montrer ce que doit être ma vie. Je veux passer par toi, Seigneur. C'est ça le but de ma vie maintenant. Si Dieu nous sauve, c'est pour qu'on puisse le servir. Si Dieu nous restaure, c'est pour qu'on puisse être une bénédiction pour les autres. Si Dieu nous a sauvés, si Jésus-Christ est notre sauveur, c'est pour qu'il soit le Seigneur de notre vie. Sinon, il y aura toujours un déséquilibre. Sinon, il va toujours manquer quelque chose dans notre vie. On ne peut pas accepter Jésus-Christ comme notre sauveur personnel et rester le maître à bord. Il y a un problème, un dysfonctionnement. C'est déséquilibré. Seigneur, je veux tomber sur ma face. Je veux passer par toi maintenant. C'est toi qui me montres où aller. C'est toi. Va, ta foi t'a sauvé. Ce soir, est-ce que vous n'avez pas envie d'entendre cette parole ? Peut-être de réentendre. Mon enfant, ma fille, mon fils, je te restaure ta foi. Par ta foi, parce que tu crois, je veux te bénir, je veux te guérir. Parce que tu es mon enfant, je veux te montrer une direction, j'ai des projets de paix pour toi. Il faut accepter, peut-être accepter de dire, oui Seigneur, je me suis trompé. Oui Seigneur, j'ai voulu être le seul maître à bord, maintenant montre-moi. Venez, venons ensemble au pied du Seigneur Jésus-Christ, au pied de la croix. Parce qu'il y a toujours un espoir. Un jour, la porte sera fermée. Un jour, ça va être quand même compliqué. Nous allons devant de temps difficiles. Mais le mot du Seigneur, c'est quand même aujourd'hui, si on entend sa voix. Ne restons pas durs, ne restons pas secs, ne restons pas frustrés, meurtris, parce qu'il s'est passé ceci ou cela. Mais acceptons, venons, revenons sur nos pas, allons vers Jésus-Christ. Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Je terminerai, vous savez, j'avais noté ça, que lève-toi, on pourrait le traduire par se lever, forcément, se relever, mais également se relever de la mort, ressusciter, naître, comme si on renaissait, c'est la nouvelle naissance. C'est la nouvelle naissance, c'est une nouvelle vie, une nouvelle existence. Et nous devons comprendre qu'en allant vers Jésus-Christ, il y a un avenir pour nous. Il y a un chemin. Et peut-être si je dis ça, je n'avais pas prévu de terminer par ça. Mais peut-être que quelqu'un a besoin d'entendre et de réentendre que Dieu a un chemin pour nous, qu'il n'est pas pris de court, qui n'est pas surpris par ce qui se passe, mais il y a un chemin. Ne nous écartons pas de ce chemin. Et si on s'est écarté, mais Dieu est toujours le même, il est toujours rempli d'amour pour que nous puissions être restaurés, pour que nous puissions comprendre que c'est lui et lui seul, qui peut nous bénir. Je pense à un texte, je vais essayer de le retrouver, si j'ai retenu là. La référence, et je terminerai avec ce psaume. On pourrait lire ensemble le psaume 75, Psaume 75, verset 7, c'est ce que nous devons comprendre et c'est ce que ce soir peut-être Dieu veut dire à une personne. Nous lisons, car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. Ce n'est pas de telle et telle pensée, manière de vivre que nous allons pouvoir être restaurés, élevés. Ce n'est pas de l'Occident, ce n'est pas au désert, ce n'est pas dans ce monde, ce n'est pas à gauche ni à droite dans ce qu'on va pouvoir faire, mais c'est Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est que nous puissions être restaurés, c'est que nous puissions être élevés. Élevés, ça ne veut pas dire que nous soyons supérieurs à tout le monde. C'est que du tas de poussière que nous sommes, Dieu nous restaure. Dieu, sa volonté, c'est qu'on soit avec lui. Ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Ne cherche pas un autre chemin, ne cherche pas une autre méthode, ne cherche pas un autre moyen que la prière pour remporter des victoires, pour avoir une vie victorieuse. C'est Dieu, c'est Jésus-Christ qui donne, c'est Jésus-Christ qui restaure, c'est Jésus-Christ qui rétablit, c'est Jésus-Christ qui purifie de tout péché. Ce soir, ne reste pas dans l'illusion, ne te trompe pas toi-même, mais reviens, reviens sur tes pas, reviens à Jésus-Christ, parce que c'est lui qui va te dire, lève-toi, lève-toi. On prie le Seigneur un instant. Seigneur, merci pour ta parole, merci parce que tu nous rappelles ta vocation, c'est de sauver l'humanité, mais de nous sauver personnellement, parce que tu as payé le prix sur le bois de la croix. Ton sang a coulé pour que nous puissions vivre, c'est dans ta mort que nous avons la vie. Nous ne voulons pas nous tromper, nous ne voulons pas penser que nous sommes pur parce qu'il y a eu ceci ou cela dans notre vie. Seigneur, nous voulons être là, ramenés à toi et croire, être face à nous-mêmes en nous disant que seul ton sang peut nous laver, nous purifier de tous nos péchés. Sauve-nous, sauve ce soir, secours mon Dieu. Seigneur, qu'une personne puisse comprendre que c'est toi qui restaure, ce n'est pas le monde, ce n'est pas les méthodes. Mon Dieu, parle au cœur. Peut-être que quelqu'un a besoin de revenir sur ses pas. Seigneur, bénis cette personne. Quelqu'un a peut-être a besoin de venir se jeter aux pieds de Jésus-Christ en disant « Mais je ne veux plus être le seul maître à bord, je veux passer par Jésus-Christ. » Repentez-vous, confessez vos péchés au Seigneur et marchez sur les chemins de Dieu. Il a des projets de paix pour chacun d'entre nous. Nous devons comprendre que la bénédiction est dans l'obéissance. Merci mon Dieu, parce que tu as prévu pour nous une manne cachée, une manne que tu veux distribuer et nous donner. Et nous voulons nous emparer ce soir par la foi, la prière, en te faisant confiance tous les jours de notre vie. Merci pour ce que tu vas faire et accomplir mon Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.